tous. Suite à un mouvement de grève pour la défense du service public, une grande table raccourcie aujourd'hui. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et pour commencer, alors que le Théâtre de la Ville vous propose avec France Culture une journée avec lui, entre lecture, chanson et théâtre, rencontre avec Serge Rezvani, peintre, romancier, auteur, compositeur, un homme dans le tourbillon d'une vie dédiée à l'art, indiscipliné peut-être. À 90 ans, l'auteur des Repentirs du peintre et de Ultime Amour n'a rangé ni le pinceau ni la plume et vient de publier un nouveau roman, Histoire masquée, aux éditions Les Belles Lettres. Ni trop tôt, ni trop tard, donc pour le recevoir, Serge Rezvani s'écoute tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Serge Rezvani, comment allez-vous ?
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un centenaire moins 10, voilà ce que nous allons célébrer avec vous ce samedi sur la scène de l'espace Cardin. Des 90 ans rugissants.
Rugissants. Oui. Oui. Que vous répondre ? Non, c'est quand je dis que j'ai 90 ans moins 10 que j'ai 100 ans moins 10, pardon. Ça veut dire que j'ai beaucoup de projets. Voilà, qu'on se retrouve un jour à 90 ans sans s'en rendre compte qu'on a atteint cet âge qui n'est qu'un chiffre.
Et avoir 100 ans moins 10, Serge Rezvani, c'est aussi être un témoin privilégié des évolutions d'un siècle. Une mère russe, un père iranien, vous tombez très jeune, vous, dans le bouillon des cultures, dans ce chaudron identitaire, comme on a tendance à le percevoir aussi aujourd'hui. À la question « Et vous, vous êtes qui ?», sur cette question des identités, vous dites « Elles n'ont jamais été finalement aussi aiguës qu'aujourd'hui, quand vous étiez petit. C'était une question moins sensible. » Je fais référence au prologue de votre dernier roman, Histoire masquée, où vous dites qu'aujourd'hui, on doit se justifier en permanence d'être français.
Oui, moi j'ai été de ces sans-papiers, de nulle part, donc je connais très bien la question, je l'ai vécu très jeune. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme territoire la langue française, que je trouve absolument riche, extraordinaire et je pense qu'en abordant la France, même les gens qui viennent de nulle part ou d'ailleurs, ils abordent une langue avant tout. Et je pense que je souhaite que la France s'accroche à sa langue surtout, c'est pas du culturel, c'est de la culture. C'est très important, la nuance est très importante.
Être français, être né français, combien j'aurais aimé ne pas l'être, faire la preuve d'origine improuvable, être le réceptacle d'une histoire incompréhensible, obscure et compliquée, dont les motivations échappent à l'intelligence française, si pragmatique. Comme il est pesant d'être français de souche, avec derrière soi le fardeau d'une histoire typiquement française, faite de mésalliances, de haines, de non-dits chargés de méchants et fallacieux aveux, comme j'aurais aimé porter en moi les larmes de David. Et oui, je suis français, et pourtant, s'il me fallait en faire la preuve ici, parcourir l'histoire de ma famille sans rien en cacher ni en falsifier, je ne le pourrais qu'en me dissimulant derrière un masque, car pénétrer ouvertement dans l'histoire des miens serait faire scandale, rien que d'en écrire le nom m'est interdit, trop chargé d'histoire pour être divulgué.
Ah ben je suis très heureux que vous lisiez ce passage, cette introduction à ce livre dont je suis, avec beaucoup d'humour, le nègre, car ce n'est pas moi qui ai écrit ce livre, c'est quelqu'un dont je ne peux dire le nom, qui est d'une des plus grandes familles françaises, si bien que cette personne de ce grand nom peut se permettre, au nom de la religion, déléguée par le Vatican parfois, de faire certaines choses qui seraient répréhensibles, mais qu'on ne peut pas y avoir de scandale sur un nom aussi grand. Donc je suis très en retrait de ce livre en même temps et très impliqué à la fois puisque je pose toutes les questions qu'on, disons, limite au bord du gouffre de la mort et je crois que ces questions que je pose là, tout le monde les a en soi mais n'ose pas peut-être se les poser. Je pense que vraiment là, j'ai réussi à poser les questions fondamentales.
Voilà, jusque dans la fiction, Serge Retvani, vous avancez masqué, vous jouez avec les identités, les doubles identités. Mmh. Et comme le protagoniste anonyme de ce dernier roman, Histoire masquée, qui paraît donc aux éditions Belles Lettres, un fils de grande famille et de haut rang, dont vous faites le nègre, hein, le ghostwriter, comme on dit en anglais, il y a des secrets que vous éprouvez le besoin de révéler, vous, aujourd'hui, Serge Retvani, ou plutôt des questions que vous aviez encore envie de poser.
Oui, disons que c'est une fiction. Ce personnage a existé, mais disons comme base, comme excitant à écrire, quoi, tout simplement, parce que en partant d'une... je pense que tout romancier part toujours d'une réalité... les amis de Goethe disaient bien quel malheur d'être les amis d'un écrivain, parce que les écrivains volent toujours quelque chose. Et là, en effet, j'ai volé une histoire que j'ai développée, qui à la fois est réelle et à la fois très... Laure Adler, dans une émission que j'ai faite, a dit que mon livre était gothique. J'ai trouvé ça très, très agréable, ça m'a beaucoup plu. Car mes références seraient plutôt Léo de Hurlevent ou Le Maître de Ballantré de Stevenson, qui sont les deux grands romans. Par coïncidence, Borges trouvait que c'était les deux plus grands romans gothiques donc du 19e siècle.
Alors un Serge Retvani gothique plutôt que nihiliste, en quoi croyez-vous aujourd'hui?
Tout simplement à l'art que représente une vie. Je crois qu'on peut être l'artiste de sa vie. Voilà, c'est ma seule foi.
Et vous avez tenté de l'être, en tout cas, tout au long de votre vie?
Je ne l'ai pas tenté, je l'ai été.
Vous l'avez été?
Je peux le dire, vraiment, oui.
Samedi soir, sur la scène du Théâtre de la Ville, c'est là que nous découvrirons une fois encore que derrière le parolier et mélodiste du tourbillon de la vie, il y a un homme qui a plusieurs flèches à son arc, ou comme vous dites, plusieurs arcs à sa flèche, avec des lectures d'extraits de vos romans, à peu près 50 au compteur, de vos pièces de théâtre, une quinzaine, de la poésie, de recueils, voilà ce que vous avez notamment publié, des chansons qui seront interprétées sur la scène par Elena Noguera. C'est dans cette pluridisciplinarité que vous
indisciplinarité.
Avez et indisciplinarité, Serge Retvani, que vous avez trouvé votre liberté.
Oui, bien sûr. Vous savez, je pense que dans la vie, il ne faut pas savoir ce qu'on veut, mais il faut vraiment être certain de ce qu'on ne veut pas vivre. Alors si vous ne vivez pas ce que vous ne voulez pas vivre, la vie est très généreuse, elle vous offre tout le reste. Et le reste, c'est justement ce qu'on ne sait pas.
Qu'est-ce que vous ne vouliez pas? Ça, vous l'avez su très tôt?
Je l'ai su très très tôt, bien sûr, en voulant être peintre. Justement, c'était de ne vouloir pas être autre chose que peintre. Et puis ça m'a mené très loin, dans toutes les directions, avec une immense curiosité, et peu à peu un rejet du système de la peinture, du système de l'art. Tel qu'il se présente aujourd'hui depuis la catastrophe du surréalisme, qui nous a mis dans une régression, une telle régression le surréalisme a, disons, privilégié l'écriture automatique, les dessins de foule, les dessins d'enfants. Donc, disons que tout ça nous a mené vers des origines. Nous avons mis quand même quelques dizaines de milliers d'années pour en sortir. Donc ce retour à l'origine est très dangereux aujourd'hui. Je crois que c'est le grand danger de notre époque.
C'est plus le retour aux origines ou à l'origine que les contraintes.
À l'originelle, disons même.
Il est où le danger? Où est la menace dans ce retour?
La menace?
Oui. Pourquoi vous y voyez une catastrophe?
J'y vois une catastrophe, tout simplement d'abord que... ne serait-ce que le privilège que s'est accordé le masculin. Dans notre société qui est détruite complètement par l'entreprise masculine. Le fait que Abraham a longtemps régné sur la culture, surtout occidentale, puisque Abraham, ce sont les grandes guerres qui ont tué la jeunesse avant. On se débarrassait des jeunes dans les grandes guerres. Aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes qui n'ont pas de travail pendant que l'argent travaille à leur place. Donc on se retrouve dans une société machiste, violente, criminelle tout le temps, qui privilégie la mort, Alors que les femmes, il n'y a qu'à voir, ne serait-ce qu'au niveau du langage, quand quelqu'un prend la parole, prend le pouvoir, il ralentit sa parole. Et les femmes, c'est étrange, parlent très 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 vite, parce que elles ne leur laissaient pas le temps de la parole. Rien que sur ce plan-là, déjà on voit très bien comment ça se passe. Et donc, et puis je reviens toujours au féminin, mais au pôle féminin, je ne suis pas pour le féminisme militant et qui pourrait être agressif et masculin. Mais je pense que le féminin, ce n'est pas le féminisme. C'est autre chose. C'est une autre philosophie.
Un monde dirigé par les femmes, un monde créé par les femmes, aurait peut-être pas été un meilleur monde, mais aurait été en tout cas un autre monde.
Ah ben, bien sûr, je pense que... Vous savez, Beauvoir disait qu'on n'est pas forcément femme, mais on le devient. Je dirais le contraire. Je pense qu'on n'est pas forcément homme, on le devient. Je pense que un enfant mâle sort quand même de la chair féminine. Et longtemps, même l'enfant était... On les habillait en petite fille, même. Le garçon était dans le gynécée. Jusqu'au moment où l'homme, le guerrier, venait le chercher pour l'initier. L'initier à quoi ? Au mépris du féminin.
Artiste indiscipliné et indisciplinaire, Serge Rezvani, comme vous vous plaisez souvent à le rappeler, ce qui est surprenant, c'est que non seulement vous n'avez rien fait pour faire carrière, mais en plus vous avez même pris la vague à contresens, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le succès arrivait, vous avez choisi de prendre un peu la tangente. Vous arrêtez la peinture quand vous commencez à être un artiste coté sur le marché, vous arrêtez la chanson quand on commence à vous demander d'écrire pour la terre entière. Pourquoi cette ligne de fuite ?
Oui, voilà, la fuite. Vous savez, il y a trois façons de s'en tirer depuis toujours. C'est ou affronter, ça veut dire se battre jusqu'à mourir, ou bien se fondre dans le milieu et disparaître, ou s'envoler. Et le vol a été vraiment l'invention la plus poétique, la plus extraordinaire de la fuite. Et quand on pense que des lézards qui se traînaient le ventre à terre se sont envolés, je pense que c'est une des plus belles inventions qui soit, de quitter la terre avec un envol. Donc je suis pour la fuite, absolument. Et donc toute ma vie n'a été qu'une série de fuites, en effet.
L'art ou un éloge de la fuite par quelqu'un que vous connaissez, que vous avez lu, le neurobiologiste Henri Laborie, le père des neuroleptiques. Écoutez sa définition.
La majorité des gens considèrent que la fuite est quelque chose de répréhensible. Hein, c'est
oui, quand la lâcheté. Quand vous dites c'est ça l'éloge de la fuite, on dit mais ce qui fait l'éloge de la lâcheté justement.
Voilà. Ben, c'est parce qu'il y a dans ce mot tout un contexte affectif qui vient de la socioculture. Je commence par dire par exemple que c'est la seule attitude pour un voilier devant le danger d'une mer démontée. Oui. À ce moment-là, c'est le seul moyen et c'est pas lâche de fuir devant la tempête.
C'est s'adapter à certaines lois.
Exactement. Alors, les mots, chaque homme a l'expérience, a une expérience des mots, et c'est ce qui rend les mots dangereux.
Pour vous, la fuite, par exemple, pour continuer avec ce même mot, c'est la créativité qui est dans l'homme.
Bien sûr, parce que quand on ne peut plus agir, il faut bien imaginer les moyens de s'en sortir.
Et c'est en imaginant que l'on devient de plus en plus homme.
Et bien sûr, la seule particularité du cerveau humain, c'est de pouvoir créer de l'imaginaire, c'est-à-dire créer de l'information, ce qu'aucune espèce animale ne peut faire. Il a un cerveau qui est fait de telle façon qu'il a des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes associatifs, qui permettent à partir de l'expérience mémorisée, de la mémoire, de mélanger ces expériences de telle façon qu'il en naît ce qu'on peut appeler de nouvelles structures.
Quelque chose de neuf,
voilà.
Des idées neuves.
Voilà, la solution nouvelle à un problème ancien.
Voilà, et des idées neuves, Serge Rezvani, vous n'avez pas cessé d'en avoir. La fuite n'est pas la lâcheté.
Quel plaisir d'entendre ce que je viens d'entendre. Sur la création, surtout. Parce que la création vient aussi de l'insatisfaction. Le créateur satisfait n'est plus créateur, il est tout simplement artisan. Il refait toujours la même chose et il le réussit très bien. Par contre, le créateur, il rate tout ce qu'il fait, donc il fuit toujours. Il est toujours dans ce qui va arriver, il n'est jamais dans ce qui a été fait. C'est très beau ce que je viens d'entendre, c'est très bien.
C'est d'ailleurs un des points de départ de votre première pièce de théâtre, Les Immobiles, la question du temps et de la mémoire, où un vieil homme est confronté à la sienne, sa mémoire qui se fait la belle. Pourquoi toujours s'efforcer dans une vie de retrouver le passé? Est-ce que le passé, ça reste pour vous aussi, Serge Rezvani, un temps qui compte?
Non. Je pense alors là vraiment que la femme de Lot qui se retourne sur Sodome et Gomorre est transformée en sel. Et si on se retourne sur son passé, on est transformé en sel. Le sel des larmes, sûrement. Mais je pense que non. Je crois à la répétition, surtout. Je pense que l'éternité est dans la répétition. Si on trouve l'endroit du bonheur, le moment du bonheur, l'être avec lequel on est heureux, on aurait envie, je crois, de revivre tout le temps, quotidiennement et à chaque instant la même chose, pour rentrer dans l'éternel. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, ça devient comme ça.
C'est Paul Éluard qui disait que le poète, être poète, ce n'est pas un métier, que lui ne pouvait pas s'empêcher d'écrire, que c'était le seul moyen qu'il avait trouvé dans sa vie pour être libre, mais qu'il avait quand même l'impression de se répéter, que ses sujets changeaient, mais que l'écho qu'il trouve en lui était sensiblement le même à chaque fois. Je parle de Paul Éluard parce que on voit aujourd'hui réédité un très beau livre que vous aviez réalisé ensemble, paru en 1946. Elle se fit élever un palais. Paul Éluard écrivait ses poèmes et vous, vous avez réalisé pour ce livre des gravures. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un de ses poèmes, d'un et de deux, de tous, dans la voix de son auteur, Paul Éluard.
Je suis le spectateur et l'acteur et l'auteur. Je suis la femme et son mari et leur enfant. Et le premier amour et le dernier amour. Et le passant furtif et l'amour confondu. Et de nouveau la femme, et son lit, et sa robe, et ses bras partagés, et le travail de l'homme, et son plaisir en flèche, et la houle femelle, simple et double, ma chère, n'est jamais en exil. Car où commence un corps, je prends forme et conscience, et même quand un corps se défait dans la mort, je gis en son creuset, j'épouse son tourment, son infamie honore et mon cœur et la vie.
Et Paul Éluard nous raconte ce qu'il est aussi à travers ce poème. Je suis l'acteur, le spectateur. Vous êtes tous là aussi, vous, Serge Rezvani.
Ce qu'il a dit de très beau, c'est que je suis homme et femme. Voilà. Il n'a pas dit comme ça, mais je le dis comme ça, pour faire plus net. Et je pense que c'est très important que nous acceptions nos deux moitiés. Notre part de féminité qui est très importante, de féminin, je dirais plutôt, et que nous soyons plutôt en doute sur notre part de masculin. Je pense qu'il faut quand même... L'histoire de l'homme est très longue, et si on a le courage de la regarder en face, on doit douter sur certaines valeurs, sur ces valeurs qui sont de la force, le pouvoir et tout le reste.
Elles parlent parfois d'une même voix, vos deux moitiés. Elles parlent ensemble parfois ou elles passent
tout le
temps à se chamailler?
Ah, pas jamais chamailler, non, au contraire, elles sont réunies. Non, c'est pour ça que je crée. La création est vraiment la réunion de ces deux voix, V-O-E-S. C'est évident. Ce sont deux fleuves qui se rejoignent ou deux ruisseaux.
Quelle est votre définition de la beauté? Serge Rezvani, vous la voyez partout, vous la voyez en tout, la beauté?
Disons que j'y suis très sensible et je ne pourrais pas la définir. Mais c'est ma sensibilité qui me dit c'est beau. Mais je pense qu'encore une fois, la beauté, revenant à la femme, ce n'est pas le singe qui va chercher un fruit rouge au bout d'une branche qui découvre la beauté. Je pense que si on a le sentiment de beauté, c'est encore une fois à travers le corps de la femme que le surréalisme a détruit. Justement, là aussi, les peintres surréalistes ont cassé, divisé, brisé le corps de la femme. Et mes derniers tableaux que j'avais exposés à Venise il y a pas mal de temps maintenant, c'était redonner son identité au corps de la femme, sa beauté, justement, car je pense que le mot beau, je pense pas qu'on ait pu inventer le mot beauté autrement qu'en passant par le corps de la femme. Il y a qu'à voir tous les tableaux, d'ailleurs, de la Renaissance, et on comprendra pourquoi.
une journée avec Serge Rezvani, alors que le Théâtre de la Ville, avec France Culture, vous rendront hommage, raconteront aussi une vie de création, 90 ans déjà, entre lecture, chanson et théâtre ce samedi. Nous, on a le plaisir de discuter avec vous. Jusqu'ici, il est midi 21 sur France Culture.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Comme un refrain, Serge Rezvani, 150 chansons signées sous pseudo, Cyrus Bassiac, c'était vous. Comme autant de pages noircies d'un journal intime, un journal chanté, dites-vous. Pendant de longues années, je me suis efforcée de saisir par l'écriture la forme de mes sentiments, qu'à mesure je découvrais insaisissable ou disons indicible. Voilà ce que vous annoncez d'entrée de jeu dans le livre d'entretien Le tourbillon de ma vie. Chaque chanson, Serge Rezvani, j'ai fait siffler le micro, est-ce que chaque chanson est une peinture de l'intime pour vous?
Ah, ça a été mon journal chanté, oui. Ne serait-ce que pour dire que je ne pensais pas qu'elle serait chantée par d'autres. Ça a été un hasard extraordinaire que, comme j'étais très ami avec Jeanne Moreau et son mari depuis toujours, qu'elle ait eu envie de les chanter, que Truffaut les ait découverts et vraiment énormément aimés. Il a souhaité même que mes chansons soient connues, parce que moi, elles seraient restées dans mon tiroir, tout simplement, et seulement dans le cercle de mes amis, ça me suffisait. Ça a été un hasard, ça a été un accident, disons, ces chansons pour moi. Mais c'est mon journal intime, c'est vrai.
C'est-à-dire que là où l'encre parfois se fait sèche, là aussi où le peintre se fait silencieux, la chanson a été une forme de réponse à tout cela.
Vous savez, aux États-Unis, vous mettez une pièce dans un jukebox pour avoir 3 minutes de silence. J'ai cette ambition de faire partie des 3 minutes de silence dans un monde de bruit et de fureur, comme disait Faulkner.
Je ne vais plus oser parler alors. Attention intime, c'est quand même ce que la plupart de vos chansons nous disent, puisqu'elles racontent l'amour, et notamment l'amour pour une femme, Lula. Comment vous pouvez accepter que ces chansons soient chantées par d'autres?
Ah, mais elles ne sont plus à moi. Dès l'instant qu'elles sont livrées, c'est pour ça que je les chantais pour moi, pour ma femme et tout doucement pour le cercle de mes amis. Mais à partir du moment où elles ont franchi ce cercle, elles ne m'appartiennent plus du tout. Surtout la chanson, je dirais, entre guillemets, c'est de la mémoire insaisissable. C'est quelque chose de très violent. C'est comme un parfum. C'est aussi fragile qu'une aile de papillon que vous voulez prendre entre les doigts. Une chanson, c'est vraiment du temps retrouvé, mais avec une manière tellement indicible. Mais donc mes chansons ne sont pas de moi. Je les réentends aujourd'hui ou chantées par d'autres. Ça me fait très plaisir. Je les redécouvre, mais je ne suis pas du tout l'auteur. Et en plus, ça a été mon violon dingre. Je les ai écrites quand même un peu de la main gauche.
Donc, vous ne vous sentez pas volé ou dépossédé quand Anna Karina, par exemple, dans Pierrot le Fou de Godard en 65, entonne cette chanson, Ma ligne de chance, ou Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours, ô mon amour. Vous acceptez que vos mots passent dans la voix des autres. Pas plus d'ailleurs quand Jeanne Moreau, avec qui vous avez eu une longue amitié, née dans le tourbillon de Jules et Jim de Truffaut en 63, reprend vos mots. Ensemble, vous allez d'ailleurs enregistrer les 12 chansons de Bassiac, un album qui s'ouvre par J'ai la mémoire qui flanche.
Le garçon qui invente ces chansons est un peintre. Et nous nous connaissons depuis très très longtemps. Nous nous connaissons depuis maintenant 12 ans. Et lorsqu'il est fatigué de peindre et lorsqu'il est fatigué un peu du bruit au milieu duquel il vit, il habite dans un HLM près de la porte d'Orléans, pour se détendre un petit peu, il avait un banjo, puis alors depuis s'est acheté une guitare. Il invente des choses, des mélodies, et il raconte des événements qui l'ont frappé, qui ont fait quelque chose à sa sensibilité. Et comme nous sommes très près l'un de l'autre, il me paraissait tout naturel de les chanter comme ça pour m'amuser. On était toujours une bande d'amis, on les chantait. Et comme ce garçon écrit des chansons depuis des années et des années, j'en savais donc beaucoup. Il s'appelle Bassiac parce qu'il est persan. Et Bassiac en persan, ça veut dire petit voyou.
Ah bon, c'est un petit voyou dans la vie?
Non, c'est pas un petit voyou, c'est un homme charmant.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale.
Peu m'importe la tyrannie et le règne des soudards, tant qu'ils nous laissent la vie, tant qu'aimer n'est pas trop tard. Dans tes bras, ta tendre amie, de nos corps, les chats de rire ont fait périr mon cafard. Le bourdon du désespoir a pétri toute ma vie. Le bourdon du désespoir, des angoisses les plus noires. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien comme il était très musicien. Il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'aime ton odeur, ta saveur, Léon. T'es pas beau, Léon, t'as les cheveux longs. Mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, mais je t'ai dans la peau, Léon. Je ne suis pas jolie, jolie.
Serge Rezvani, vous avoir dans la peau ou pas, petit voyou, disait de vous.
Non, c'est du russe.
Jeanne Moreau,
c'est
oui,
pas du persan.
En traduisant. Et homme charmant, c'est pas incompatible d'être un petit voyou et un homme charmant.
C'est aux autres de le dire. je ne fais rien pour être charmant. Mais j'aimerais ajouter quelque chose parce que c'est là où les chansons ne sont plus de moi et ne m'appartiennent plus. C'est que par exemple. Elle dit « Peu m'importe la tyrannie » de ma chanson. C'était contre nous la tyrannie. C'est elle qui a changé l'attaque. Et le « Peu m'importe la tyrannie » ne me ressemble pas du tout. C'est pour vous dire que j'accepte volontiers qu'on prenne... J'aime pas beaucoup en changer les paroles, mais disons que quand se les accapare, je pense que c'est normal. C'est bien, c'est bien.
Quel est le mot, puisque vous parliez tout à l'heure, pour vous, Serge Rezvani, de l'importance de la langue, quel est le mot de la langue française ou les mots que vous préférez, les plus beaux mots de notre langue ?
Ah ben, le mot beauté, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Ah, je pensais que vous auriez gardé « je t'aime », dont vous parlez bien d'ailleurs
oui,
dans, un, je, dans
oui, le
testament
le
«
je t'aime » qui risque amour toujours, tout ça. Je veux dire, on l'a tellement galvaudé dans les journaux féminins, justement. Le point G, je t'aime et tout le truc, non. Et on l'a galvaudé vraiment, ce mot.
Alors, on y va pour la beauté.
C'est pour ça que j'ai écrit Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, mon amour, qui est ma meilleure chanson, je pense.
Vous disiez quoi alors ? Vous disiez quoi alors ?
Dans cette chanson ?
Oui, non, dans la vie, si vous ne disiez pas je t'aime.
Ah, je pense que ça se vit, ça se dit pas. C'est indicible.
C'est indicible et insaisissable, ça aussi. Vous nous avez fait le plaisir d'être avec nous. Merci beaucoup, Serge Rezvani. On vous retrouvera donc samedi pour une journée entière qui vous sera consacrée. Main dans la main, le Théâtre de la Ville avec France Culture. Texte, lecture, théâtre, mais aussi chansons avec Elena Nouguera qui sera à vos côtés. Une autre amitié artistique. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table.
Merci.